France Culture.
Question d'islam par Al-Bunshir. Aujourd'hui, nous parlerons encore une fois, mais cette fois-ci avec un autre point de vue, de mystique islamique, mais surtout de paradoxe de la mystique, avec ses propos qui pour certains sont débordants, ce sont des apophtegmes sapientiaux, mais qui parfois sont aussi scandaleux. Ce sont des locutions outrancières pour certains, des locutions théopathiques, et on reviendra sur toutes ces définitions avec le professeur Pierre Lory. Pierre Lory, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de revenir encore une fois. Vous êtes directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, un fin connaisseur de la mystique islamique, le spécialiste reconnu de cette mystique, de l'approche ésotérique, de l'exégèse coranique, mais pas uniquement. Et là, vous nous parlez, et vous avez consacré tout un ouvrage, une somme, un livre-somme sur ces paradoxes de la mystique en contexte islamique. Comment étiez-vous amené à parler de ces shatahat, c'est le terme pluriel en langue arabe, en personne dit chathiyat.
Absolument.
C'est le pluriel de chath, quasi intraduisible en français, parce qu'à la fois, ça, c'est à la fois de l'excès, du débordement, de la déviation, de l'agitation, voire dans le langage vernaculaire de la danse, quand il s'agit de quelque chose de physique. Alors, quels sont ces chathahat, ces expressions un peu provocatrice parfois?
Disons, tout le travail que j'ai consacré à ces chatahat voudrait montrer et rendre justice à ce phénomène qui fait que c'est ce que j'appelle des paradoxes, en fait, ne sont nullement scandaleux. Ils ont leur logique propre. Ils correspondent à un enseignement tout à fait cohérent. C'est un instrument de transmission d'une connaissance, et c'est donc tout à fait cohérente et, comme j'espère le montrer, dans la ligne de la foi sunnite. Je voudrais d'abord revenir au début de la réflexion. Pendant des années, des longues années, j'ai eu le privilège, le bonheur d'enseigner des textes de mystique musulmane, de les expliquer. Et je me suis aperçu comment le fait d'appeler cette mystique, une science de la mystique, un ilm tasawwuf, était au fond un peu inapproprié. On parle de science de la mystique, on parle de science du hadith, ou science de la grammaire, ou science du Coran, ou science du droit. Or, je crois que cela n'est pas tout à fait approprié. En effet, dans, mettons, la théologie ou la grammaire ou le droit, il y a des principes, il y a des textes auxquels on se réfère, dont on déduit des états, mais ce n'est pas du tout le cas en mystique. En effet, la mystique, le tasawuf, est une science qui n'a pas d'objet. Car en effet, Dieu n'est pas un objet. Dieu n'est pas un objet d'étude. On peut étudier le Coran ou la théologie, mais Dieu lui-même reste complètement mystérieux et inconnaissable. Et d'où on verra le côté de paradoxe dès que se met à parler de Dieu en tant que vécu, en tant qu'expérience spirituelle vécue. Donc il n'y a pas d'objet de connaissance, mais il n'y a pas non plus de sujet. Parce qu'en effet, le novice soufi qui se met en marche dans une transformation de lui-même. C'est-à-dire qu'au début, quand il est novice, il est un croyant ordinaire, et au fur et à mesure de sa progression, son âme charnelle, disent les textes, se transforme progressivement, et il arrive à se transmuter en quelque sorte lui-même. Donc il n'est pas en état de rendre compte de son évolution spirituelle. Pour ça, il faut un maître, Et enfin, la science de la mystique n'est pas vraiment une science parce qu'elle n'est pas prévisible. En effet, bien sûr, les textes disent il y a diverses étapes. On commence par la tauba, la repentance,
le repentir,
puis la peur, et puis l'espoir, etc. Mais en fait, on voit que c'est assez factice, que chaque mystique a eu des étapes, a connu des étapes très très différentes. Et que les mots pour désigner ces étapes recouvrent des états extrêmement différents. Par exemple, pour prendre les premiers textes qui sériaient ces étapes, je pense celui de Kalabati en particulier, qu'est-ce que l'amour ? Eh bien, il va dire, selon Junaid, l'amour, c'est obéir à Dieu. Selon Rabi'a, c'est le célèbre poème des deux amours, l'amour qui vient de Dieu, l'amour pour Dieu. Et puis pour Hallaj, l'amour, c'est l'anéantissement en Dieu. Donc on voit qu'avec ce terme unique, on voit qu'il y a en fait des contenus. Voilà, au moins trois approches. Et de plus, l'action divine, en quelque sorte, la progression mystique due à l'action divine est complètement imprévisible, car tout le monde est d'accord pour dire que Dieu seul accorde sa présence à qui il l'entend. Donc ce n'est pas une science dont on puisse prévoir l'évolution. Tout ceci, donc, amène à la conclusion que pour parler véritablement de l'expérience mystique en tant qu'elle est vécue, on ne peut pas employer un vocabulaire linéaire, on ne peut pas employer des réflexions linéaires. Alors, il y a une doctrine soufie, bien sûr, il fallait encadrer, bien sûr, il fallait transmettre au grand public, à partir du moment où, au Xe, XIe siècle, le soufisme s'est répandu. Il n'en reste pas moins que c'est un cadre général et que l'expérience elle-même ne s'exprime pas par ce cadre général et il s'exprime par des locutions beaucoup plus personnelles et c'est celle que j'ai essayé de retrouver dans ces chatahat.
Et que vous appelez paradoxe, étymologiquement à côté ou si ce n'est anti, doxa droite, reconnu, c'est en cela que ces propos sont perçus comme provocateurs par le commun des croyants et par la doctrine, enfin les gardiens de la doctrine islamique. Alors vous parlez essentiellement de l'obédience sunnite. Y a-t-il une spécificité dans l'obédience chiite ou pas à propos de ces paradoxes ?
Ah non, il y en a d'autres. Il y a d'autant moins de différences que, au fond, les paradoxes se sont répandus à une époque où la différenciation entre sunnisme et chiisme n'était pas encore aussi nette. Mais je voudrais tout de suite insister sur le fait que beaucoup de ces paradoxes ne sont pas scandaleux. C'est-à-dire qu'on leur a fait finalement une très mauvaise réputation, notamment suite au procès de Hallaj, mais aussi parce qu'on voulait contrôler ces expériences soufies. Mais quand on regarde de près, il y a un grand nombre de ce qu'on appelle dans ces chatahat, mais qui n'ont rien de scandaleux. Junaid, par exemple, le grand mystique sobre, qui est mort en 910, a dit « Si un homme qui s'est perdu s'est trouvé. » Donc, c'est un paradoxe. Effectivement, il faut que le mystique accepte de s'éteindre, en quelque sorte, de s'abolir en Dieu. Et là, il va trouver son véritable destin d'ami de Dieu.
Oui. Alors, d'où vient l'idée que ce sont des propos émis lors d'extase ? Donc, ce sont des propos extatiques. Et vous dites que, selon à la fois vos recherches, vos connaissances, que c'est plutôt dit lors de séances d'enseignement et il y a une initiation par ces propos qui paraissent contradictoires et qui sont paradoxaux.
Oui, enfin on peut dire que l'idée que les chatahats sont émis à l'état d'extase, ce sont les grands maîtres soufis eux-mêmes qui l'ont répandu. Et le premier témoignage, historiquement, c'est Sarraj, donc c'est fin du Xe siècle, qui dans un livre tout à fait important, passionnant, sur la pensée mystique et les expériences mystiques, a tout un chapitre sur les chatahats et il dira « Non, mais d'accord, ils ont dit des choses qui peuvent étonner, qui peuvent être considérées comme scandaleuses. Mais en fait, c'est parce qu'ils l'ont dit à l'état d'extase. Et du coup, ce n'est pas eux qui disaient « louange à moi ». c'est Dieu, c'est une voix divine qui parlait à travers eux, et, mais eux-mêmes, ils étaient absents à eux-mêmes, c'est ce qui les innocente. Ça, je crois que c'était quand même largement tactique. C'était pour dévier en quelque sorte la critique des théologiens extérieurs qu'il mentionne. Mais en fait, dans les recueils de ces paradoxes, je préférais le terme paradoxe suite à Henri Corbin, qui parle de paradoxe mystique parce que, disait-il, au fond, le paradoxe, c'est l'expression de l'inexprimable. Et je crois que ça touche vraiment le point. C'est l'expression de l'inexprimable. Eh bien, en les faisant parler pour des critiques sages, on les dédouanait de ce qui pouvait être mal compris. Mais quand on voit dans les recueils de ces paradoxes, on s'aperçoit qu'il y avait très souvent des situations de maître à disciple. Certains de ces paradoxes ont été écrits ou ont été récités en vers, donc c'est pas du tout des moments de perte de contrôle. Et d'ailleurs, on verrait très mal comment des gens comme Bestarmi, qui avait une grande audience, ou Hallaj, qui avait aussi des centaines de disciples, comment ils auraient exhibé devant un grand public de disciples des états d'extase qui sont par définition tout à fait intimes. Donc ça, je crois que ce n'est pas crédible, et qu'au contraire, ces locutions étaient dites avec une grande lucidité pour secouer très précisément à tel moment les disciples, pour les éveiller. C'est d'où le titre de l'ouvrage. Par exemple, un disciple est venu trouver Abou Yazid et lui dit « Maître, quel est le chemin ? Le chemin pour Dieu ?» Abou Yazid répond « Oublie le chemin, tu parviendras à Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Abou Yazid ne veut pas dire du tout de quitter la sunna ou les règles, absolument pas. Il dit simplement, mais le Dieu que tu cherches, il est partout, il est devant toi, il est à côté de toi, il est dans toi. Quel chemin veux-tu prendre ? Et c'est tout à fait logique avec l'attitude d'Abou Yazid qui est celle du chemin direct. On l'a demandé, mais quel est le plus haut degré spirituel que peut atteindre un mystique ? Et il répond, le plus haut degré spirituel, c'est son existence, ou Joudhou. Simplement le fait d'exister comme créature de Dieu, il a déjà atteint la totalité de l'expérience mystique.
Alors, si ce sont des propos délibérés, réfléchis, mûris, devant une assemblée qui est en attente de cela, leur caractère perçu, réel ou supposé, leur caractère contradictoire, paradoxal, ne peut-on pas dire que cela s'apparente, mutatis mutandis, au koan des moines bouddhistes quand ils enseignent par ce qui paraît être absurde afin d'éveiller les consciences ?
Ah, tout à fait. Je crois que la comparaison est tout à fait légitime. C'est bien ça. C'est un moment précis. Il faut bouger le psychisme du disciple. Évidemment, encore faut-il être compris. Ici, il y a deux attitudes très distinctes dans le soufisme ancien. Il y a l'attitude de Junaïd, donc qui est le maître prudent, qui dit ce que nous enseignons, à savoir l'abolition de la conscience en Dieu, et n'est pas compréhensible par le commun. Donc, il faut être très discret. Il a inventé tout un vocabulaire technique très difficile, et il n'en parlait qu'à un petit cercle de disciples. À l'inverse, son disciple Hallaj, au contraire, était tout à fait extraverti. Il disait, mais non, il faut diffuser ça auprès de tout le monde, de tous les musulmans et même des non-musulmans. Et donc, il allait dans les mosquées, dans les souks, en parlant aux gens, en disant, mais le Dieu que vous cherchez, il est en vous, réveillez-vous. Enfin, bon, donc d'un côté très véhément, qui l'a conduit là où l'on sait, puisqu'il a certes fait des adeptes, mais il a tellement irrité le pouvoir politique qu'il a été condamné à mort et exécuté en 922.
Oui, après un long procès.
Après un très long procès, oui.
D'une dizaine ou douzaine d'années. Néanmoins, c'est simplement pour avoir l'autre point de vue, dire à ceux qui ne sont pas encore prêts à l'entendre, il n'y a dans la robe ou sous le manteau que Dieu, cela paraît, en tout cas, ça peut heurter la conscience d'un croyant lambda.
Ça peut tout à fait heurter, effectivement, la croyance des croyants ordinaires. Et c'est à ce titre que les confrères de Hallaj, quand il a été exécuté, n'ont pas tous dit qu'il avait proféré des hérésies, mais qu'il avait quand même été très imprudent par rapport aux autres croyants et qu'il avait même manqué de respect envers le secret du Seigneur. Parce qu'il y a le secret divin qu'il révèle au cœur de ses amis, des saints, eh bien, il faut le garder. Il ne faut pas comme ça en parler publiquement devant une foule qui n'est pas préparée.
Oui. Alors, vous nous avez dit que la mystique n'est pas une science, elle est plutôt expérientielle. Et pour pouvoir en rendre compte, il faut bien des mots, des expressions. Sauf que exprimer l'inexprimable, c'est quand même problématique. Et donc, c'est par ces paradoxes que l'ineffable, l'indicible puisse être communiqué.
Oui, c'est ça. Enfin, ces paradoxes peuvent être plus ou moins, surprenants, mais c'est bien ça. En fait, quelqu'un comme Hallaj, qui est intéressant parce que justement, il dit franchement ce qu'il en a été pour lui, dit tous les mots qu'on peut utiliser pour Dieu, pour parler de Dieu, c'est ne porte pas du tout. C'est du bavardage, c'est même du délire, dit-il parfois. Mais alors, comment peut-on parler de Dieu? Eh bien, dit-il, la seule façon de parler vrai de Dieu, c'est quand notre parole est habitée par l'Esprit de Dieu lui-même. Et alors, à ce moment-là, c'est Dieu qui parle en nous. Et cela peut paraître paradoxal, mais en fait, il y a quelque chose de profondément coranique. En effet, le Coran apprend que tout ce qui est créé dans le monde est créé par Dieu, est soutenu par la volonté divine à chaque fraction de seconde. Chaque molécule, chaque atome est soutenu par Dieu à chaque seconde. Donc l'être humain lui-même est quand même n'existe pas en tant que tel, il existe en tant qu'il est voulu par Dieu. Et donc Hallaj et les autres soufis font simplement à l'extrême, la logique d'ailleurs de cette constatation, de cette exégèse, c'est de dire, mais au fond, même le fait de dire « je », le fait de dire « moi »
est une forme d'associationnisme.
Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, seul Dieu peut dire légitimement « moi ». Et donc, la seule façon de dire « moi », c'est de dire « moi » en se référant à Dieu, d'où la célèbre locution de Hallaj, « An al-Haq, je suis le Dieu divin », qui est une espèce d'aveu suprême d'humilité, d'annihilation en Dieu, et non pas la mégalomanie un peu folle qu'on lui prête parfois.
Ou encore cette autre expression de « gloire à moi, adorez-moi », qui est d'un autre mystique. Néanmoins, pour que les hommes puissent s'entendre entre eux, il leur faut des repères au niveau du langage, sous-tendus par un raisonnement logique. Leur dire, et non sans raison, que Dieu se révèle en se voilant, ou du moins que tout est Dieu, mais son éclat et son omniprésence fait qu'on ne le voit plus alors qu'on le vit, ça dans un premier temps paraît incompréhensible.
Effectivement, bon, il faut quand même être réaliste et que tout le monde, tout un chacun n'est pas prêt à l'entendre. Mais c'est pour ça que les soufis, Hallaj, plus tard Rusbehan, un autre grand locuteur de paradoxes, diront en fait tout l'univers est englobé par la ruse divine. Le Coran fait état de la ruse divine, mais en fait, tous les hommes sont soumis à la ruse divine, qui, pour la raison que vous venez de dire, est omniprésente, parce que Dieu ne peut pas se révéler en tant qu'il est lui-même. Toutes les hommes seraient incendiés par sa présence, donc il se dissimule. Donc il faut comprendre tout ce que nous vivons, tout ce que les mystiques vivent, comme des éléments de ruse divine, mais il faut être assez pur pour savoir la décrypter, la déchiffrer.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de paradoxes mystiques, de propos qui sont... Pierre Lory nous dit qu'ils ne sont pas scandaleux, mais qui sont au moins incompréhensibles. Qu'est-ce que c'est que cette expression de locution théopathique, dite par Louis Massignon? Vous, Pierre Lory, qui êtes directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études et qui avait eu cette occasion d'enseigner la mystique et l'ésotérisme au sein de l'islam, si c'est Dieu qui parle ou on fait parler Dieu à travers soi-même, ce sont des locutions théopathiques.
Tout à fait. Simplement, les locutions théopathiques, où Dieu parle à la première personne à travers le soufi, sont quand même relativement rares. Hein. Dans les recueils dont nous disposons, il y a beaucoup de locutions qui ne portent pas... où c'est le soufi lui-même qui parle. Quand Bestarmi dit, je ne sais pas... Le paradis est un jouet pour les enfants, une seconde de l'amour de Dieu vaut mille paradis. C'est lui qui parle, en quelque sorte. C'est lui qui parle. Et c'est une manière, comme on l'a vu tout à l'heure, paradoxale et provocante pour transmettre un enseignement. Mais, rappelons toujours que tous ces hommes, Bestarmi, Hallaj, étaient des gens extrêmement pratiquants. Donc il faut entendre ces provocations dans le cadre de leur foi et de leur pratique. Hallaj n'arrêtait pas de jeûner pendant toute l'année. Bestarmi, dit-on, se rinçait la bouche avant de prononcer le nom de Allah. Donc c'était des gens complètement... On ne pouvait pas soupçonner, disons, de la moindre hérésie. Et...
Avec cette idée qu'il faudrait, à un moment ou un autre, briser le cadre légaliste, drastique de la loi, avec grand L, pour laisser place à cette union mystique.
Exactement. Et c'est là, alors, où viennent d'autres locutions qui ont fait scandale, mais je le répète, se comprennent. Quand Al-Hallaj dit, par exemple... que la prière, donc lui-même priait, des nuits entières, la prière des amoureux, c'est de la mécréance, c'est du kufr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amoureux de Dieu, celui qui vraiment va au bout de l'amour de Dieu, s'il prie en pensant qu'il prie, eh bien il se trompe, il se laisse piéger. Parce qu'en fait, la véritable prière, c'est Dieu qui l'a fait. Le soufi qui ne comprend pas qu'en fait c'est Dieu qui, à travers la prière rituelle, s'adresse à lui-même une prière, eh bien, celui-là, il est encore dans la dualité. Donc, ce que Hallaj appelle le kufr al-khafi,
la mécréance cachée. Ou en tout cas non révélée. Qu'en est-il alors du débat autour de Dieu qui est transcendant, certes, mais qui est aussi proche, plus proche que la veine jugulaire, loin, aussi loin que les confins de l'univers, il est partout. Donc, le terme arabe étant le houloul, sorte d'inhabitation, donc immanence en l'homme, et d'aucuns parmi les rigoristes ou les juristes reprochent aux mystiques de dire que Dieu les habite.
Oui, alors là, c'est un point tout à fait fondamental. C'est-à-dire que, au fond, les théologiens ont essayé d'encadrer, disons, les formes, les modalités de la présence divine dans l'homme avec des concepts précis. La différence, c'est que les soufis, eux, ne se laisse pas encadrer par ces concepts. Le houloul, par exemple, l'idée que Dieu vient inhabiter dans une personne, théologiquement, ça veut dire quelque chose. Pour les soufis qui prennent conscience que tout ce qu'il y a dans le monde est habité par la présence divine, toutes ces définitions volent en éclats. C'est pour ça qu'on peut En lisant halal, on le considérait comme hulouli, mais en fait, je crois que ce n'est pas du tout comprendre sa véritable expérience, ce qu'il cherche à nous transmettre.
Il y a peut-être trois étapes. Il y a celle de l'aspirant. Là, il est encore en phase d'initiation. On pourrait, à l'extrême rigueur, même si vous nous aviez dit que ce n'est pas véritablement une science, apprendre les rudiments avec les mots, avec tout un vocabulaire, une quasi-nomenclature, il y a un lexique à maîtriser. Et puis par la suite, on passe à une forme d'approche expérientielle et on finit par goûter à la vérité.
Tout à fait, tout à fait.
La vérité, chez les Grecs, aletheia, avec le a préfixe privatif, et l'été, l'oubli, c'est un désoubli. Donc c'est se remémorer une réalité ultime, pré-éternelle.
Alors là, on arrive au point le plus délicat de tout le discours soufi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le mystique se dépouille de ses attributs humains, essaye d'adopter les attributs divins, se purifie, il arrive à un moment où il considère, il voit bien que lui-même n'existe pas en tant que lui-même, mais que c'est Dieu qui lui confère l'existence. C'est le moment défini par le terme effacement, fana. Donc il est comme effacé en Dieu. Et là, on peut le concevoir comme anéanti ou comme divinisé, mais le soufisme n'est pas un panthéisme, c'est-à-dire qu'il y a un moment de disparition en Dieu, qui est un moment qui peut être très dur. Hein. Junaïd raconte son expérience en écrivant comment ce moment d'effacement peut être douloureux, mais ça ne dure pas. Vient un moment
parce qu'on n'a plus sa propre conscience, où la conscience humaine coalesce ou s'anéantit au fond dans une conscience,
exactement,
l'unique d'ailleurs, cosmique et réelle.
Mais, ceci dit, le soufi revient à lui après. Il se retrouve dans son oratoire, il va retrouver sa famille, son métier et tout, donc il revient à lui, mais avec une conscience transformée. Ceci dit, il faut quand même, pour essayer de définir ce qui a pu se passer, voir que, bien sûr, dans cet effacement, le mystique individuel, Junaïd, Hallaj, Chibli, peu importe, ne s'identifie pas au Dieu cosmique. Quand il est effacé en Dieu, il est effacé dans une présence divine, dans une théophanie particulière à lui, qui lui reste quand même individuelle. Allah, j'ai écrit un vers célèbre. « J'ai vu mon Seigneur avec l'œil de mon cœur. Je lui demandais « Qui es-tu ? » Il m'a dit « Toi-même. » Donc, c'est-à-dire que le Dieu qui apparaît à Hallaj, c'est l'aspect divin qui se manifeste dans Hallaj.
Tout à l'heure, vous nous disiez que Bastami a dit qu'une seconde de l'amour de Dieu vaut mieux que 1000 paradis. Et le fait de dire qu'un atome de sa connaissance vaut mieux que 1000 châteaux dans le paradis, il dit « Tu étais pour moi un miroir et je suis devenu le miroir ».
Tout à fait. L'homme devient le miroir de Dieu.
Avec cette idée que l'univers tout entier est le miroir de l'essence divine, et ce qui joue le rôle du regard, c'est l'amour divin.
Absolument. Il se reflète dans des millions et des millions et des millions de miroirs différents chez les hommes. Et c'est d'ailleurs pour ça que des gens comme Hallaj sont tolérants, en disant « n'essaye pas d'arracher quelqu'un à sa confession », puisque au contraire, Dieu veut se manifester dans des miroirs qui à chaque fois différents.
Et que toute la création avec ses créatures sont autant de facettes de ce grand kaléidoscope qui reflète la lumière divine.
Voilà, dans ce qu'elle a de lumineuse, ou alors dans ce qu'elle a dans les ténèbres qui existent aussi sur la Terre, ça, bien sûr.
Pour eux, toujours dans ces paradoxes qui tentent, ou par définition, voire par essence, tentent d'exprimer l'inexprimable, le fait de parler des attributs divins, un savoir sur Dieu, pour eux, in fine, ce n'est pas opérant. au sens où on n'a pas à parler d'attributs de Dieu, puisque Dieu est une essence omniprésente et omnisciente, omnipotente.
Oui, c'est-à-dire qu'au fond, il y a deux niveaux, en quelque sorte, quand on parle de Dieu. Il y a d'une part les attributs qui se manifestent dans la création, qui se manifestent dans la vie de l'homme, qui peut, par exemple, commettre des péchés, et auquel cas Dieu se manifeste sous l'aspect pardonneur, c'est un des noms divins. Mais au-delà de tout cela, au-delà de toute cette activité dans la création, Dieu est complètement indescriptible.
Oui, je vous ai posé la question parce que je pensais à ce prédicateur du nom de Jahm ibn Safwan, bon, au milieu du 8e siècle, qui dit que la pluralité des attributs divins, finalement, ne rendent pas compte de l'unicité et de l'essence, de l'acuité, de l'ipséité de l'être divin.
Oui, oui, mais ça, je crois que c'est une idée qui traverse toute la pensée mystique, en effet. Il y a Dieu en tant qu'il est lui-même, dont nous ne pouvons absolument rien dire, et puis Dieu en tant qu'il se manifeste dans sa création. Et là, bien sûr, on peut fonder une théologie des attributs, des noms divins, et on peut fonder alors un discours mystique, bien sûr.
Pierre Lory, ces paradoxes inspirés, j'ai dit tout à l'heure au niveau de l'annonce qu'il s'agissait d'apophthegmes qui se veulent des propos de sagesse, et que ces apophthegmes sapientiaux, pour certains même de nos jours, sont toujours perçus comme sinon scandaleux et outranciers, au moins incompréhensibles. Ceux qui les profèrent disent, mais de toute façon, le Coran lui-même en recèle la profusion, si ce n'est que toute la parole divine est paradoxale.
En effet, puisque il y a dans le Coran, dans chaque verset du Coran, des trésors qui ne sont pas dits dans le sens littéral. Alors bien sûr, c'est évident quand s'agissant, mettons, des lettres liminaires, dont le sens n'apparaît pas tout de suite, mais celui qui a le plus insisté là-dessus, Jules Berand Barclay, au XIIe siècle, pointe le fait qu'il y a pas mal de versets du Coran qui sont paradoxaux, ainsi que des hadiths. Le hadith Qudsi, lorsqu'il est dit que Dieu a créé Adam selon son image. Bon, qu'est-ce que cela signifie? Donc là aussi, ça suscite une réflexion sur ce qu'est la manifestation divine dans la création.
Ce qui fait dire à certains exégètes de nos jours, c'est que la forme humaine d'un Adam icône de Dieu sur terre et son vicaire est le mieux faisant, le mieux disant auquel on puisse aspirer, c'est la créature harmonieuse, même si un Paul Valéry dit quand même la nuque restera toujours un mystère pour l'œil humain, oui, indépendamment du miroir, bien sûr. Pierre Lory, une exégèse coranique du fait de ces paradoxes va tenir compte de ce qu'on appelle les versets, pas paradoxaux, mais en tout cas amphibologiques, à cause de l'amphibolie, parce qu'il y a un sens et son contraire qui sont dans le même passage, dans le même verset, au sens où... par exemple, les versets de 1 à 7 de la sourate 3, les tout premiers, quand il est dit il y a des versets qui sont explicites et qui constituent la mère du livre, et que d'autres versets qui sont équivoques, ceux qui sont enclins à la dissension s'attardent sur les versets équivoques, alors que les versets qui sont explicites et qui se trouvent dans la mer du livre ne peuvent être connus que par Dieu. Et là, on ne sait pas s'il s'agit enracinés dans la science, ou ceux qui sont enracinés de la science disent « nous n'avons de connaissance que ce que Dieu nous en donne ». Là, il faut trancher, et c'est l'exégète qui tranche.
Là, vous avez entièrement raison. Ce verset-là pose la question de du côté de la plurivocité de beaucoup de versets, voire même de la totalité des versets. Hein, et ça, on a alors des exemples très multiples dans les commentaires mystiques du Coran que j'ai beaucoup lu et commenté dans l'ouvrage. Donc il y a plusieurs chapitres qui évaluent, qui rendent compte de ce que les mystiques ont dit sur certains versets, notamment sur les prophètes. Par exemple, sur Adam et Ève. Adam et Ève ont été créés dans le jardin, mais au fond, tout dans le jardin était fait pour qu'ils désobéissent, disent les soufis. Parce qu'en fait, on leur demande à la fois de ne penser qu'à Dieu, et puis on les place dans un jardin où tout est fait pour qu'ils pensent à eux-mêmes. Donc, ça montre la nécessité bienveillante de cette transgression qui leur a permis de devenir humains à part entière, qui leur a permis de devenir autonomes, qui l'a permis à Dieu de les pardonner et qui permet enfin qu'il y ait des hommes qui deviennent des saints. Et c'est le fait qu'il y ait des saints, des aoulia, qui est le but final de toute la création.
Oui, Henri Corbin, qui finalement dit qu'il s'agit là de paradoxes inspirés, dit qu'il y a toute une métaphysique à ces shatahat, donc à ces débordements ou à ces propos paradoxaux, parce que finalement on enseigne par le fait d'interpeller. Si je reviens à l'analogie avec le bouddhisme, c'est lorsque le lama donne le coup de bâton sur l'épaule du bonze pour le faire sortir un peu de sa, pas de sa léthargie, mais d'une méditation prolongée. Et donc on considère que le commun des croyants ou le commun des mortels sont dans une forme de léthargie ou de sommeil, et c'est avec ces propos-là qu'on veut les secouer, les réveiller.
Voilà, il y a une espèce d'enchaînement qui se fait, c'est toujours les mêmes idées. Dans les milieux soufis, on récite un zikr, donc c'est la litanie qui suscite des états spirituels, donc on s'installe dans un état spirituel. Mais il faut absolument, dans l'initiation en question, casser une régularité qui se prolongerait. Donc il faut sans arrêt heurter les certitudes des mystiques. Abou Yazid lui-même a dit, donc Bistami a dit, pendant 30 ans j'ai été séparé de Dieu, et c'était mon zikr, donc ma prière que j'adressais à Dieu, qui me séparait de lui. Parce que donc, il voulait dire par là, moi, Abou Yazid, je m'adressais à Dieu, donc la dualité restait. Et dit-il, lorsque j'ai arrêté mon zikr, à ce moment-là, j'ai vu Dieu partout.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, et aujourd'hui avec le professeur Pierre Laury, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, fin connaisseur de la mystique et de l'ésotérisme en contexte islamique. Nous parlons de ces paradoxes inspirés par les mystiques eux-mêmes, et nous essayons de comprendre pourquoi ont-ils été considérés, et même jusqu'à présent, comme des propos scandaleux, alors qu'il y a un véritable enseignement très riche dans ces paradoxes. Donc pour cette dernière partie, cher Pierre Laury, il y a parmi les polygraphes, les théologiens, les exégètes, même les savants de l'islam à travers l'histoire. Vous nous avez parlé de Sarraj dans son livre Lumas, les éclats de lumière, une volonté de recenser, de serrer ces paradoxes pour les méditer, les comprendre, les déconstruire même, parce que il y a une fascination derrière.
Absolument. Non, c'est quand même remarquable de voir que ces locutions qui sont tellement bizarres et difficiles à comprendre, mais on en a gardé mémoire. Enfin, ils auraient pu être complètement oubliés, cachés, masqués. Non, pas du tout. On en a gardé mémoire. On les a transcrites et on continue à les citer. Parfois en les critiquant, parfois en disant que ce sont des excès, mais on les a transmises, ce qui montre bien la vivacité, disons, de cette sagesse qui se transmet. Alors bien sûr, au fil des siècles, à partir du 12e, 13e siècle suivant, se sont constituées les grandes confréries qui ont institué un cadre quand même de plus en plus rigide, il faut bien dire, avec des maîtres, des disciples, tout un enseignement, toute une liturgie qui laissait moins de place à la spontanéité de ce genre d'enseignement. Ça ne veut pas dire du tout que des paradoxes mystiques n'aient pas été proférés. Il y en a eu beaucoup en Iran, en Inde musulmane, aussi, mais disons que c'était comme enrobé par des coutumes, par toute une discipline confrérique, disons.
Oui. Les tout premiers paradoxes inspirés ou les tout premiers apophthegmes peuvent être remontés à Ja'far Sadiq, par exemple, mort en 765.
Oui, en effet, on trouve.
On est seconde moitié du 8e siècle.
Oui, en effet, il a un passage tout à fait bouleversant de l'interprétation de la vision du buisson ardent par Moïse. Et là, Moïse, devant le buisson ardent, comprend brusquement que lorsque Dieu dit « Moi, je suis Dieu », c'est en fait, le « moi » ne peut être que Dieu, et que lui, Moïse, quand il dit « moi », il n'est qu'un intermédiaire, disons, entre Dieu et Dieu lui-même. Alors, on ne sait pas très bien si ce commentaire du Coran a bel et bien été écrit par Ja'far. Mais enfin, en tout cas, il est très ancien, et je crois que c'est la première mention de ce chat. Et c'est d'autant plus intéressant de voir que c'est à propos d'un commentaire du Coran. C'est tout à fait passionnant de voir que c'est dans le verset coranique, donc la voix de Dieu dit « Moi, en quelque sorte, moi, c'est moi qui suis Dieu. » Il se présente à Moïse. Le jeu de ce « moi », Anna, est absolument décisif dans l'enseignement soufi. Par ailleurs, plus tard, des soufis comme Mansour Behrane feront remarquer que la première créature à avoir dit Anna, c'est Iblis. Iblis a dit, lorsqu'on l'a demandé de se prosterner devant Adam, moi je suis meilleur que lui. Donc le fait même de dire moi, Anna, l'écarter de Dieu en quelque sorte, c'était le premier péché.
Une sorte de première rébellion, une déchirure dans l'harmonie pré-éternelle ou dans le à-temps, avant le temps ou quand il n'y avait pas de temps. Mais d'autres mystiques disent que finalement, et là aussi c'est paradoxal, Iblis, Satan, n'a rien fait d'autre que de se conformer à l'amour divin en n'acceptant que le fait de se prosterner que pour Dieu et pas pour une autre créature. Dût-il pour cela se rebeller contre un ordre divin?
Oui, alors c'est justement ce qu'ont dit certains grands mystiques comme Hamadani, Anaprosat Hamadani, qui dit au fond, Iblis savait que le monde entier est piégé par Dieu, est une ruse divine. Et donc, quand Dieu demande aux anges de se prosterner devant Adam, c'était une ruse et qu'il fallait au contraire ne pas se prosterner. Mais lui, il ne s'est pas prosterné, il a refusé et il a tenu bon. Et après, mais ça c'est une méditation qu'on trouve déjà chez Hallaj, il se considère comme amoureux de Dieu et peu lui importe qu'il soit maudit pour l'éternité, pourvu que jusque dans l'éternité, Dieu mentionne son nom et se souvienne de lui.
Pierre Laury, chez les mystiques musulmans, je pense aussi que c'est chez d'autres mystiques aussi, dans d'autres sphères confessionnelles, ces paradoxes inspirés sont finalement le résultat d'abord de l'énigme insondable et le mystère de la vie, et puis vous dites, je l'ai lu dans votre ouvrage, qu'il y aurait une explication, le conditionnel est de moi, à un triple niveau. D'abord, le caractère équivoque de la structure du monde, ce qui paraît absurde dans la vie est déjà reproduit dans ces shatahat, dans ces paradoxes inspirés. L'équivocité aussi ou l'amphibolie ou l'amphibologie du langage humain. Si je dis que je loue un appartement, on peut pas savoir si je suis le bailleur ou le locataire. Par exemple, c'est inhérent comme ça à l'expression entre les hommes. Et le troisième cas, c'est lorsque vous évoquez l'équivocité aussi de la conscience humaine. Ça, on est dans des caractères de psychologie et de sciences contemporaines. Mais les trois réunis peuvent expliquer ces sorties des mystiques.
Oui. Puisque, bon, il faut à chaque fois, le maître, puisque à chaque fois le châtre est dit par un maître, précise à la personne qu'il a en face de lui de ne pas se laisser piéger d'abord par son état de conscience. Comme vous le disiez, il y a en l'homme plusieurs foyers de conscience. Quand l'homme dit je pense, je crois, qu'est-ce qui parle en lui? Il y a une très grande différence entre le novice qui, lorsqu'il dit je, est complètement dominé par son âme charnelle, qui peut être profondément égoïste, et lorsque le mystique accompli dit je, il parle en tant qu'homme complètement imprégné par la présence divine. Donc, à chaque fois, il y a ambiguïté, il y a savoir qui parle à qui. Et c'est un peu le point nodal de tout ce livre, de voir au fond, à travers tous ces textes soufis, qui parle, qui s'adresse à qui. Et évidemment, ça dépend de chaque texte, hein, ça dépend de chaque auteur, chaque moment, à qui il s'adresse, pour qui il écrit, dans ses commentaires coraniques éventuellement. Donc ça, c'est, on ne peut pas généraliser. Oui.
Revenons à Hallaj, le quart d'heure, on ajoute le quart d'heure des consciences aussi. Lorsqu'il dit ce fameux vers, je vais le dire en arabe et je le traduirai sous votre contrôle, « Kafartu bidini illahi wal kufru wajibun aliyya wa inda al-muslimina qabihu » Quelque chose comme « j'ai renié la foi de Dieu et ce reniement est un devoir pour moi », alors que c'est un péché ou quelque chose de laid, en tout cas chez les musulmans. Il n'y a pas plus scandaleux que cela.
Oui.
Et donc, le fait, en quoi est-ce un paradoxe inspiré? C'est le fait de dire que vous qui vous attardiez sur l'observance de tel ou tel rite, finalement vous devriez dépasser ça. Parce que, pour revenir à ce que vous nous disiez en début d'émission, à une forme de mécréance cachée, et que laisser tout à l'acceptation de Dieu.
Oui, c'est-à-dire en deux mots, ce qu'il se passe, c'est que obligatoirement tous les hommes, et donc en l'occurrence tous les croyants, adhèrent à une compréhension du monde, adhèrent à une compréhension de leur religion. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et on se fait une idée de Dieu. Quand on parle de Dieu, on a des concepts en tête, on le qualifie, on se le représente. Et bon, et bien tout cela, Allah, je dis, il y a un moment où il faut le rejeter. Il y a un moment où il faut qu'il y ait un doute, mais qui n'est pas un doute intellectuel. C'est une remise en question de toutes nos perceptions, seulement ça pourra permettre alors à la présence divine de nous atteindre. Sinon, on garde devant cette présence divine un bouclier qui n'est pas franchissable.
Alors, que penseriez-vous de ceux qui disent, et vous me pardonnez l'expression un peu prosaïque, que Hallaj lui-même s'est lâché après son procès, après le verdict du procès, n'ayant plus rien à perdre, puisque l'issue était connue pour lui, et notamment dans son livre Tawassin, là aussi c'est intraduisible puisqu'il s'agit des premières lettres énigmatiques, notamment des trois sourates, la 26, la 27 et la 28, la sourate des poètes, des fourmis et du récit, qui commence par ces lettres mystérieuses et énigmatiques, Tawassin, parfois Mim. Quand il se lâche, bon, parce que pour lui, autant être, je reviens au mot, dans la provocation.
Ah, non, ce n'est pas comme ça que j'interpréterai les Tawassin. Je crois qu'il avait profondément vécu sa mission, qu'il était persuadé d'avoir une mission d'abord, face à la communauté, sans l'exagérer peut-être comme avait fait Massignon, mais il avait le sentiment de faire d'avoir une mission et que il voulait l'assumer jusqu'au bout. Il n'a pas voulu se rétracter. Il l'a assumé jusqu'au bout en disant voilà, puisque je suis musulman, j'adhère à la foi et à la loi musulmane, la loi me condamne, eh bien je me soumets à la loi.
Quelque chose de socratique.
Voilà, c'est ça. Pour que mon message puisse quand même me survivre. Puisque lui, il affirme alors dans ce livre-là, qui commence par la parabole du papillon, les papillons qui voient la flamme, qui s'approchent, mais qui ont peur, ça les brûle.
Ça, ce sont les premiers, les aspirants, et on est dans la science de la mystique, voilà. À supposer qu'on puisse parler ainsi.
Il s'approche, mais ça brûle trop. Et seuls quelques très rares papillons rentrent dans la flamme et se laissent complètement consumer par elle. Eh bien, Halaj se présente comme étant rentré dans la flamme. Et donc, sa parole provient de cette expérience.
Bien, avec cette métaphore ou cet apologue, nous finissons l'émission. Merci infiniment. Merci, cher Pierre Lory, d'être venu nous parler de ces paradoxes inspirés de la mystique chez les soufis particulièrement, mais qu'on appelle en arabe shatahat au pluriel. Merci,
merci
de nous avoir parlé et de nous avoir édifié en tout cas là-dessus. Chers amis auditeurs, vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Tahar Bouhlifa et la réalisation par Anna Olbeck.